Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie, c'est au-delà de mon amour jusqu'à 15h, avec Loïc Frapsoz et Pierre-Yves de Rollin à la technique, et assisté de Marion Lelay et de Jean-Christophe Pinaza, c'est Cyril Métro qui réalise aujourd'hui cette émission. Alors une humeur aujourd'hui indigène puisque jusqu'à preuve du contraire nous sommes tous des autochtones sur cette petite planète où nous naissons libres et égaux en droit. Droits parmi lesquels nous avons 1. Le droit de vivre en paix où bon nous semble, à la campagne, à la ville, comme dans la forêt tropicale, la toundra ou le désert. 2. Le droit de préférer la farine de manioc et les melons sauvages aux sandwichs longue conservation et autres barquettes de cassoulet pour micro-ondes. 3. Le droit de préférer passer la nuit dans une hutte sous une tente à la Belle Étoile plutôt que dans un 5 étoiles de Dubaï en faillite. 4. Le droit de tout ignorer des dernières enquêtes d'opinion, des programmes de télé, des cours du pétrole ou du diamant. Bref, une petite piqûre de rappel des droits de l'homme, pas inutile si l'on en croit l'ONG Survival, qui dénonce l'acharnement avec lequel les missionnaires costards cravatés des compagnies pétrolières et de l'agro-industrie s'efforcent de convertir les derniers irréductibles de la planète au bienfait de la sédentarisation, de la viande à tous les repas, de la bagnole et de l'iPod Nano. Indien Guarani au Brésil, Innu du Canada, Bushmen du Botswana, Ogiek du Kenya, Jarawa des îles Andaman, Aléoutes de Sibérie et j'en passe. Et comme le souligne Jean-Patrick Razon, donc le directeur de Survival, pour vivre heureux, vivons cachés ou l'application par les tribus indigènes du principe de précaution. Car là où les tronçonneuses et les bulldozers passent, eh bien les maladies prospèrent et les populations trépassent. Illustration avec les Bushmen du Botswana, donc un peuple de chasseurs-cueilleurs qui jusque-là s'en sortaient pas mal, sans téléphone ni carte de crédit et ne demandaient rien à personne, mais dont les ancêtres avaient eu le tort de s'installer dans le désert du Kalahari, un coin a priori peu hospitalier où l'on découvre soudain des mines de diamants dans les années 1980. Aussitôt débarque la De Beers, géant mondial de l'industrie du diamant, exit les Bushmen. Autre lieu, autre méthode, aujourd'hui au Pérou, c'est la compagnie franco-britannique Perenco, par l'odeur du pétrole alléché, qui veut expulser donc ces tribus indiennes de la forêt amazonienne pour piocher dans les richesses du sous-sol. Sauf que les Indiens refusent de céder aux menaces des conquistadors des temps modernes et de leur chef, le président péruvien Alan Garcia. Ils décident donc de bloquer la route transamazonienne. Au mois de juin, bilan de la confrontation, 30 morts. On regrette donc que la compagnie Perenco ne soit pas arrivée en troisième position derrière Total et Bolloré pour le prix Pinocchio décerné par les Amis de la Terre, cette ONG cette semaine, dans la catégorie « Je bafoue allègrement les droits de l'homme à l'autre bout du monde ». Et pourtant, par-ci par-là, eh bien, il se trouve quand même des chefs d'État pour défendre les droits des tribus indigènes. On pense par exemple à Evo Morales en Bolivie, à Rafael Correa de l'Équateur et aussi Lula da Silva, oui, du Brésil. Donc un espoir pour ces peuples avec qui on se découvre parfois d'étonnantes affinités. Tenez, comme tous ces gens dans leur contrée reculée, bah nous aussi, par exemple, on vivrait peut-être bien sans télé, mais je dois vous le confesser, sans radio, ça j'ai encore un petit peu de mal. Alors un menu donc tout à fait riche dans cette émission. À la fin de cette émission, on vous présentera une plante avec Jacques Florentin, ce sera l'Arpagophytum. Et puis nous allons partir dans le département du Lot.
Par rapport à l'Afrique, on est sur une espèce de mouvement qui, un peu comme le mycélium des champignons, qui va très très vite, où ils ont pris conscience, pour l'avoir essayé une année, que c'est quelque chose qui marche merveilleusement bien. J'ai vu des photos de semis de carottes, des choses qu'on me pose toujours comme question. Comment tu fais pour semer tes carottes au milieu du bois? Ils ne se sont même pas posé la question. J'ai vu des semis de carottes au milieu du bois raméal fragmenté qui poussent à merveille.
Non loin du cause de Gramma, nous allons retrouver Jackie Dupetit, un homme donc qui a expérimenté depuis déjà pas mal de temps cette technique bois raméal fragmenté. Qu'est-ce que c'est donc? Eh bien, réponse d'ici, on va dire, une quinzaine de minutes. Et puis, on s'intéressera aussi à nos banques en compagnie d'Elisabeth Laville et de l'ONG, bah justement, les Amis de la Terre. Quel impact ont nos banques sur l'environnement? Et puis, bah, sans plus tarder, on va retrouver un homme que vous connaissez bien. Oui, c'est Jean-Marie Pelt. Eh bien, nous allons prendre soin de notre santé, comme nous le faisons assez souvent dans cette émission. Jean-Marie Pelt, bonjour.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Plan santé environnement, et ça intéresse notre secrétaire d'État à l'écologie, Chantal Jouanneau. C'est un de ses premiers dossiers d'ailleurs.
Tout à fait, quand elle a été nommée en été, elle a pris les dossiers à bras-le-corps et elle n'a pas tardé à s'engager avec, je dois dire, une vigueur tout à fait intéressante pour les écologistes. Mmh. On sent bien que c'est une personne qui croit ce qu'elle fait, c'est très important, c'est pas toujours le cas.
Non, c'est vrai, incroyable.
Pour l'environnement, c'est vrai qu'il faut quand même être un petit peu compétent et un peu concerné, sûrement. Alors, dès le 22 juillet, Mme Joanneau a lancé le deuxième plan santé-environnement qui avait été en gros déjà dessiné dans les débats sur le Grenelle, qu'elle a musclé, qui est plus vigoureux que le premier plan qui remonte maintenant à quelques années, qu'elle a concocté, bien entendu, avec le ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, et d'où ressortent 12 mesures phares pour réduire les expositions à des polluants responsables de maladies. Donc nous sommes ici tout à fait dans le domaine de la santé. Je vous rappelle que l'Académie de médecine était restée très minimaliste sur ce sujet en disant qu'en gros, pour les cancers, par exemple, l'environnement ne pouvait pas être mis en cause. Oui. Mais en fait, c'est l'Académie de médecine qui est mise en cause parce que ce n'est pas vrai. Et la preuve que ce n'est objectivement pas vrai, c'est que l'Institut national de veille sanitaire estime que 5 à 10 % des cancers sont liés à l'environnement, bien que moi, personnellement, en suivant cette question depuis des années, j'aurais tendance à dire plus, probablement plus, que ces 5 à 10%.
Le problème, c'est qu'on est toujours face à des cocktails, on va dire, chimiques, avec évidemment nos inégalités par rapport à cela.
C'est très difficile de repérer telle substance qui produit tel cancer.
Oui, on l'a fait avec l'amiante, par exemple.
Oui, c'est ce qui s'est passé avec l'amiante. Mais on a tout un panel de substances qui traînent dans l'environnement et dont beaucoup sont suspectes.
Qu'on ingère, qu'on inhale, etc.
Donc l'idée de ce plan, c'est de nettoyer l'environnement pour faire tomber ces chiffres. Oui. Et par conséquent, pour faire des économies à la sécurité sociale et pour faire aussi des économies aux familles qui pleurent leur mort de cancer. Parce qu'il y a de plus en plus de cancers. Il n'y a pas de plus en plus de morts par cancer. On a presque stabilisé la mortalité parce qu'on guérit un cancer sur deux. Mais il se déclenche de plus en plus de cancers. Bon, qu'est-ce qu'on va donc faire dans ce programme?
Alors, une priorité, les femmes et les enfants d'abord.
Oui, tout à fait. Les femmes enceintes sont particulièrement visées et on a tout à fait raison. Alors, une femme enceinte ne doit pas fumer, évidemment, ne doit pas boire de l'alcool, évidemment, ne doit pas s'exposer à des produits toxiques, évidemment, ne doit pas donner, quand elle aura fait le bébé, à ses bébés des jouets qui sont suspectes. Il faut diminuer la pollution dans les maisons, nous l'avons déjà dit. Et ce qu'on vit surtout, c'est ce qu'on appelle les CMR. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un CMR?
Non.
C'est un produit qui est cancérogène, mutagène et reprotoxique.
Donc une saloperie, quoi.
Et oui, et qui est souvent présent, disons, dans beaucoup de cosmétiques, dans beaucoup de produits utilisés dans l'industrie de l'habitat. Mmh. Alors ces produits sont particulièrement visés et on redoute aussi pour les garçons ces produits qui font tomber le taux des spermatozoïdes. Oui. On va surveiller pour ça l'air des crèches. On a sélectionné 300 crèches où on va faire tomber les quantités de ces produits en n'utilisant pas n'importe quel matériau dans l'entretien.
Puis il y a aussi ce que l'on respire, et là on va tomber sur l'immense problème des particules fines, que l'on ne voit évidemment pas, et qui donc sortent de nos pots d'échappement, qui sortent de nos chauffages au fioul.
Et même des chauffages au bois, des chaudières au bois.
Vous avez raison de le rappeler.
Oui, absolument. Même des chaudières au bois. Alors ça c'est une énorme boîte de Pandore de l'écologie, parce que plus les recherches avancent, absolument, plus cette source de pollution se confirme comme étant particulièrement à redouter. Donc on va par exemple revoir la construction des dites chaudières pour éviter au maximum les particules. On va essayer en amont, en appliquant le principe de précaution, de bien réfléchir, j'insiste sur ce point, avant de se lancer furieusement dans les nanotechnologies.
Madame, on va y aller.
Madame Pécresse, qui est ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a laissé entendre que c'était l'avenir de la France et du monde. Je trouve qu'elle a eu tort. Il faut qu'elle soit prudente. Elle est patronne de la recherche. On ne peut pas foncer bille en tête dans des technologies entièrement nouvelles pour lesquelles on n'a aucun recul sans prendre beaucoup de précautions. Je me réjouis qu'on en prenne. on en prend davantage qu'on en a pris pour les biotechnologies. Pour les OGM, on n'a pris aucune précaution. Pour les nanotechnologies, on est quand même conscient qu'il y a des problèmes. Alors, quel est le problème ? En un mot, il est très simple, c'est qu'on utilise des microtubes qui ressemblent un petit peu aux fibres d'amiante et qui peuvent, dans l'organisme, traverser les barrières de l'organisme, passer, par exemple, dans le cerveau ou passer dans des organes où ils ne sont pas du tout attendus et produire Dieu sait quoi. Il faut faire très attention. Et ceci figure dans le plan santé-environnement, et je m'en réjouis beaucoup. Alors on va, si vous voulez bien, formuler deux vœux. Le premier vœu, c'est que ce plan soit mis en œuvre.
Oui. Oui. Il existe, c'est bien. Maintenant, effectivement,
il faut passer
aux actes.
Oui, il faut passer aux actes. Le deuxième vœu, c'est qu'on puisse faire tomber les chiffres inquiétants de l'asthme, de l'allergie, du cancer, des maladies neurologiques dégénératives type Alzheimer, et puis des effets reprotoxiques, c'est-à-dire l'effondrement du taux des spermatozoïdes. Ça, c'est toutes les pathologies qui sont liées.
Et qu'on ait de l'épidémiologie sur le sujet, parce que ça va être rendez-vous dans 5, 10 ou 15 ans.
Voilà, alors il faudra le suivre par l'épidémiologie, domaine où la France, on n'est pas fort. En toxicologie, en épidémiologie, ceux qui sont bons, ce sont les Anglais. Ceux qui sont très mauvais, ce sont les Français. Parce qu'en France, on a toujours eu une vision d'une médecine curative et très peu d'une médecine préventive. Et on commence à se réveiller à cette idée qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et que pour la sécurité sociale, les investissements en recherche et en intervention dans tous les domaines que nous venons d'évoquer peuvent être source d'économies importantes.
Les mutuelles l'ont compris aussi.
Oui, tout à fait. On est en train de se rendre compte que l'envolée des coûts de la sécurité sociale peut être freinée par les investissements qu'on fait dans les médecines préventives. Ça, c'est nouveau et c'est très important.
Merci beaucoup, Jean-Marie, et à la semaine prochaine.
Au revoir, Denis. Bonne santé à tous.
CO2, mon amour. Denis Chessou.
À nous de terre touchée, villes ouvertes, vallées replis de verre. Le vent dépend de la frontière, le temps déporte la frontière. La frontière ferme ma vie. Sur les miens, la même.
Choisi par Muriel Pérez, notre programmatrice de CO2 Mon Amour, c'était JP Nataf, viens me le dire. Allez, on va prendre l'air du Lot.
On est à Livernon, sur le cause de Livernon, parce qu'il faut le nommer, c'est le cause de Livernon, c'est pas le cause de Gramma, il y a plusieurs causes dans le Lot. Ici, c'est le point culminant du canton. Donc, quand on parle du mont, on dit même pas Ligoussou, on dit le mont Liyoussou.
Ouais.
Parce que le G, on l'avale. Et donc, c'est la combe que je cultive depuis 1998.
Vous avez décidé de devenir maraîcher, mais dans une terre qui est quand même pauvre ou bien ingrate. Alors, racontez-nous déjà un petit peu cette terre, parce que c'est pas facile de cultiver.
Ouais, ici, on dit la terre est piètre. Les récoltes, idem. Et en fait, la terre est bonne. Mais on est sur un sol dans les combes plutôt limono-argileux.
Oui.
Donc il y a des limons, mais ce sont des argiles qui ne tiennent pas. Et donc l'humus fout le camp tous les ans. Et ce qui fait que les rendements en céréales, c'est entre 15 et 20 quintaux. Quand on fait 20 quintaux, on est vachement content.
Oui.
On est loin de mon pays d'origine, la Beauce, où tout le monde...
Là, on est à quoi, 80, 100
Ah, c'est le club des 100.
C'est le club des 100, voilà, c'est le club des 100.
C'est le club des 100.
Voilà, donc nous sommes dans le Lot, nous sommes donc dans les contreforts du Massif Central, vous avez compris ce mont Liyoussou, 452 mètres, alors on est enrobé de chênes, d'érables, nous avons des érables de Montpellier, des érables champêtres, et puis derrière nous, nous avons ces bêtes hautes sur pattes, extrêmement résistantes, donc la cosnarde du Lot, donc brebis fabuleuse, et puis des murets de pierre donc qui vraiment, je veux dire, nourrissent le paysage, mais en tout cas qui l'enrichissent merveilleusement. Et cet homme, Jacky Dupetit, avec qui on va parler, c'est lui qui a importé du Québec, grâce à un homme qui s'appelait Gilles Lemieux, cette technique du bois raméal fragmenté. Si vous ne connaissez pas, c'est normal, c'est une autre forme d'agriculture, et donc nous la découvrons avec Jacky Dupetit dans le Lot. Hop, on enjambe. Ça y est, c'est bon.
Alors la barrière, elle a une histoire, parce qu'ici, on est quand même, il faut le dire, on est dans un département qui se vide de sa population rurale.
Oui.
Et les gens qui s'occupent du territoire, il y en a très peu, de moins en moins. Mm-hmm. Ce qui fait que la clôture, en fait, c'est ma protection contre la faune sauvage. Donc les chevreuils, les sangliers et aussi les lapins.
On est dans le parc naturel régional des Causses du Quercy. On a un épiderme de calcaire. C'est vrai, c'est vraiment ça. Quoi.
C'est le plateau, les contreforts du Massif Central.
Voilà.
Moi, c'est ce qui m'a tout de suite attiré dans ce pays. C'est la minéralité des murets, les cailloux qu'on trouve. Mais il suffit de regarder le sol, c'est énormément de cailloux. Et puis, malgré tout, ces arbres qui poussent avec opiniâtreté. Mmh. Ils sont acharnés à conquérir.
Et puis bien sûr, l'eau est rare. Et vous êtes mis à une technique, quelle est-elle ?
Alors c'est la technique du bois raméal fragmenté.
C'est quoi ce nom-là ?
Donc c'est le bois et ça parle à tout le monde.
Ah bon,
le
on
bois.
Dit raméal, on pense
mais
à rameau.
Mais c'est raméal, donc on pense à rameau.
Oui.
Et l'histoire du bois raméal fragmenté, ce sont les rameaux. Avec cette capacité qu'ont les arbres, et on le voit, là, ici on est entouré d'arbres quand même, c'est le causse, mais quand on compare au causse du Larzac par exemple, il n'y a pas beaucoup d'arbres.
Ah non, tout à fait.
Et là on est quand même dans un paysage végétal avec, je crois que c'est 165 000 hectares de bois, d'espace boisé sur le département. On sait que c'est dans les rameaux qu'il y a la partie la plus riche de l'arbre, mais dans les rameaux sont contenus la majorité des nutriments qui permettent aux arbres au printemps de redémarrer leur végétation.
Alors, Jacky Dupetit, qu'est-ce que l'on en fait ? Je veux dire, que c'est quoi cette technique concrètement ? Vous faites votre maraîchage. Comment un agriculteur peut utiliser cela ?
Alors, c'est assez simple parce que ça correspond aux saisons. En automne et en hiver, c'est la période où on a le moins de travail, si ce n'est faire son bois de chauffage.
Bien sûr.
Et c'est là où on peut ramasser des centaines de mètres cubes de branches.
Oui.
Et sur ces branches, il y a énormément de rameaux. On fait cette collecte et ensuite on se sert d'une machine pour broyer, et on fait des rondelles de branches qu'on va déposer sur le sol et qui vont rester là pendant tout l'hiver.
Donc ça sert à la fois de couvert végétal et aussi d'amendement, parce qu'on connaît le système du paillage, où les jardiniers évidemment le connaissent.
Mais... C'est vrai que quand on aborde cette histoire-là et qu'on commence la première année, on se dit, c'est un paillage ou un mulching.
Bah oui.
Mais quand on a un peu d'habitude, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus que ça et que même le terme amendement ne convient pas. On est vraiment sur une histoire de régénération. Alors, dans le milieu BRF, on dit aggradation.
Oui.
C'est-à-dire qu'au lieu de dégrader, on aggrade. Oui. C'est-à-dire qu'on renforce la fertilité du sol et on constitue de l'humus. Et c'est cet humus qui va rester stable et qui va rester des années. On permet au sol de retrouver une mémoire qui est de type forestier. C'est-à-dire que ce qui va se développer en premier, ce sont les champignons. Et ce sont ces fameux champignons qui vont mettre en marche une chaîne alimentaire parce qu'ils se développent et donc il y a des surpopulations.
Oui.
La nature sait bien faire les choses, elle régule et donc il y a des mangeurs de champignons.
Alors ça, c'est valable dans des sols pauvres, là où effectivement on n'a pas du tout intérêt à balancer de l'engrais à foison.
Alors c'est vrai que les résultats les plus spectaculaires sont sur des sols comme ceux-là.
Jacqueline Dupetit, nous sommes accompagnés depuis un certain temps dans ce reportage par vos bêtes aussi, qui heureusement sont là sur ce causse parce qu'on a une tradition de pastoralisme. Donc ce sont des causse-nardes. Présentez-les-nous là. Elles sont bien maquillées là. Hein. On les voit, elles ont des petits yeux noirs. C'est quoi? C'est des lunettes?
C'est les lunettes. Le soleil ici, ça brûle les yeux.
Non, mais c'est vrai qu'on dirait qu'elles ont des lunettes.
Hein. Oui, tout à fait.
C'est vraiment ça.
Et en fait, c'est ça qui est assez fantastique sur ce pays, c'est que les causse-nardes, elles ont ça qui est fantastique, c'est qu'elles sont capables de faire des kilomètres pour trouver à manger.
Elles sont très résistantes, elles sont plutôt hautes sur pattes, hein, on les voit là.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, quand on voit les troupeaux passer, on a l'impression de voir des demoiselles qui vont au bal.
C'est ça. Elles ne chopent pas les maladies, ou très peu.
Voilà, elles sont... Mais c'est vraiment, en plus, on l'appelle la cause du Lot aussi, elle est répertoriée, c'est la cause du Lot.
Alors là, ici, ce sont quels arbres que vous utilisez?
Alors ici, il y a du chêne. Il y a l'érable de Montpellier, il y a de l'érable champêtre, il y a de la lisier, mais celui-là, je n'y touche pas. La lisier est un très bel arbre.
Oui.
Il y a aussi le cornouiller qui fait des fruits succulents. Et on a une ressource fantastique.
Alors évidemment, on peut peut-être vous opposer le fait que c'est gentil les rameaux, mais si vous en prenez de trop, il y a un problème de déséquilibre aussi dans la nature.
Ouais. Quand on coupe des rameaux, quand on coupe des branches... Parce qu'il faut savoir que la technique nous a démontré qu'on pouvait tenir 4 à 5 ans sans nouvel apport.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire que pendant 4 à 5 ans, on peut cultiver sans travail du sol, sans désherbage et sans traitement phytosanitaire.
Donc vous n'êtes pas obligé de recouper tous les ans.
Voilà, on n'est pas obligé de recouper tous les ans. Et pendant les 4 ans où on laisse les arbres tranquilles, on va ramasser encore plus de bois que ce qu'on avait ramassé 4 ans auparavant. Parce que c'est dans la dynamique du végétal de... répondre au stress de la coupe par la production de plus de bois encore. On est ici sur une source intarissable. Et maintenant, nous, l'association dans laquelle je suis, on finance des pépinières pour planter des arbres au Mali, au Burkina Faso. Et on obtient des résultats qui sont assez fantastiques, y compris en pays Dogon, où on a réussi à cultiver du mil en contre-saison. Donc on est sur... par rapport à l'Afrique, on est sur une espèce de mouvement qui, un peu comme le mycélium des champignons, qui va très très vite, où ils ont pris conscience, pour l'avoir essayé une année, que c'est quelque chose qui marche merveilleusement bien. J'ai vu des photos de semis de carottes, des choses qu'on me pose toujours comme question. Comment tu fais pour semer tes carottes au milieu du bois? Ils ne se sont même pas posé la question. J'ai vu des semis de carottes au milieu du bois raméal fragmenté qui poussent à merveille.
Vos chiens, là, c'est des collets, non, c'est quoi?
Ouais, c'est un border collé.
C'est un border collé.
Voilà.
Ouais.
Alors, avec la...
Donc, c'est très bien pour les bêtes, hein.
C'est pour les bêtes, mais c'est... Ils ont tous cette maladie de courir après les roues. Tout ce qui tourne, ils courent après. Donc, une brouette, un vélo et aussi une voiture qui passe sur la roue.
C'est ça, c'est d'accord. Quand ils nous sautent au mollet, c'est les vôtres. D'accord, je vois. Jacqueline Dupetit, qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter maintenant, ici, sur ce causse?
Ah ben on a plein de projets. Enfin, moi, j'ai plein de projets qui sont plus raisonnables qu'à une époque.
Oui.
Mais j'ai plein de projets parce que cette histoire de boire améal fragmenté est en train de gagner le monde. Hein. C'est pas rien, quoi. Parce que le Brésil, l'Inde, les Philippines, l'Afrique, Madagascar, c'est une histoire qui, à mon avis, va changer profondément l'agriculture. Parce que, raisonnablement, on voit où sont les limites. Elles sont bien là et on sait très bien que pour nourrir le monde, il faut des paysans déjà. Mmh. Et puis, il faut aussi des méthodes qui soignent le sol plutôt que de le dégrader. Et c'est la réponse à tout ça.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est une réponse agronomique, cette affaire-là.
Oui, c'est une réponse agronomique. Oui. Et ça aussi, c'est important, c'est la réconciliation de l'agriculture et de la forêt. Quelque chose qui a toujours été... une espèce de drame où on coupe les arbres pour faire la culture sur brûlis, ce qui se fait toujours. Alors qu'on sait très bien que ça ne dure que 2 ou 3 ans et qu'il faut attendre 25 ou 30 ans pour à nouveau pouvoir couper et brûler. Donc c'est un atout, notamment pour les pays d'Afrique, un atout qui est considérable.
Une méthode qui n'est pas valable partout, mais qui soigne le sol plutôt que de le dégrader. Donc le bois réal fragmenté, vous connaissez pour l'interrogation ? Ça, c'est le titre de l'ouvrage qu'a signé donc Jackie Dupetit aux éditions du Terran. Et c'est plutôt pas mal parce que ça ne devient pas un déchet. Et le sol reconnaît après, je veux dire, ces petites molécules. Donc c'est ce bois qui va permettre de le nourrir. Donc vous avez toutes les indications sur le site grâce à Anne Gouzon qui nourrit elle aussi. Elle ne nourrit pas que le sol. Elle nourrit le site vraiment de cette émission. Vous avez de nombreux liens aussi concernant donc ce bois réal fragmenté. Dans quelques instants, on va joindre une climatologue, Valérie Masson-Delmotte, et puis on parlera des banques et changements climatiques. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just
just a yellow lemon tree.
Nous aimons beaucoup, et Marion Lelaine, notre assistante également, c'était Fool's Garden sur France Inter et en direct, décryptage d'une actualité. L'actualité, c'était mardi, les climatologues ont publié un rapport sur leurs recherches les plus récentes. Il ressort qu'il va devenir très vite compliqué d'éviter un changement climatique majeur supérieur au fameux 2 degrés comme limite acceptable, sauf si vraiment on prend des décisions importantes à Copenhague pour limiter la casse. En ligne, Valérie Masson-Delmotte. Valérie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes climatologue, vous êtes chercheur au laboratoire des sciences de l'environnement et du climat, Institut Simon Laplace, CEA, CNRS et la ville de l'université de Saint-Quentin en Yvelines. Ça, c'est pour le titre tout à fait complet. Dites-nous tout. Quoi de neuf donc sur le front du climat et du CO2, pour ne pas faire mentir le titre de cette émission, avec cette actualité?
Alors effectivement, si on regarde l'état des lieux, il avait déjà été rendu public avec les travaux du GIEC en 2007. Et là, donc, on a 26 scientifiques du climat qui ont mis à jour cela, donc en particulier avec les tout derniers résultats. Alors, si on regarde d'abord les rejets de gaz à effet de serre, ça augmente. Mmh. Ça augmente avec plusieurs points qui sont remarquables. Donc, des records pour le dernier inventaire qui était de 2008 d'émissions de dioxyde de carbone, encore quelques pourcents de plus que les années d'avant. Ce qu'on observe également, c'est que le méthane, qui est aussi un gaz à effet de serre dont les concentrations s'étaient stabilisées à partir du milieu des années 90, mais c'est reparti à la hausse depuis l'année 2007. En 2007, du côté de l'Arctique, et en 2008, du côté des régions tropicales, probablement à cause d'incendies de forêt. Mmh. Donc le problème est loin d'être réglé. Hein. On est aujourd'hui, en termes d'émissions de CO2, à, je crois, près de 40% de plus, tout gaz compris, qu'en 1990.
Qu'est-ce qui contrôle la température moyenne du climat, Valérie Masson-Delmotte?
Alors, si on regarde les températures, c'est vrai que là, je parlais que des rejets de gaz à effet de serre. Donc, si on regarde les variations de température, la grosse difficulté, c'est que quand on regarde une année et la suivante, eh ben, on a une somme de facteurs qui s'ajoutent pour expliquer finalement la température moyenne de la Terre. Alors, à l'échelle d'une année, on peut avoir des facteurs même propres au climat. Donc, des années records avec des événements El Niño, des températures équatoriales très chaudes dans l'océan Pacifique et dont on retrouve la marque à l'échelle globale, ou à l'inverse, des événements La Niña, qui correspondent plutôt à des températures en moyenne un peu plus fraîches, et c'était par exemple le cas de l'année 2008. Et d'ailleurs, quand on prend les derniers 15 ans, parce que finalement, quand on travaille sur l'échelle du climat, on va regarder sur des périodes de l'ordre de la quinzaine d'années, on a un réchauffement qui se poursuit, de manière tout à fait notable. Et puis, alors je parlais des facteurs internes, hein, qui vont faire une année record, parfois en chaud, parfois en froid. Et on a également des facteurs extérieurs. Donc on peut avoir, par exemple, une grosse éruption volcanique. La dernière fois, c'était le Pinatubo, 1991, et un coup de froid pendant 1 à 2 ans. Et puis, on a également les cycles de 11 ans de l'activité du solaire qui peuvent jouer. Et on est actuellement à un minimum d'activité solaire, justement.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça peut amortir un peu les effets du réchauffement des gaz à effet de serre ou...
Alors, ce qui est important de voir, c'est les ordres de grandeur. Donc, sur ces cycles de 11 ans d'activité solaire, on s'attend à des variations de température sur 11 ans qui sont de l'ordre de 0,1 degré. Hein, c'est l'effet en watts par mètre carré d'ensoleillement en moins, et puis la réaction du climat à ce facteur-là. Et ça, c'est à comparer aux 0,15 à 0,30 degrés par 10 ans, qu'on attend d'effet du surplus de gaz à effet de serre, hein, la perturbation anthropique. Donc on voit bien que aujourd'hui, les différents facteurs se superposent et on commence à avoir un effet du CO2 qui devient dominant. C'est depuis une période relativement brève, hein, seulement depuis une trentaine d'années, finalement, que ça prend plus de poids que les facteurs naturels.
Mais ça veut dire que ces nouvelles données, est-ce qu'elles battent en brèche les arguments des scientifiques qui sont sceptiques sur le réchauffement climatique d'origine humaine ?
Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est que ces scientifiques sceptiques, souvent, ils accusent les climatologues d'être, de caricaturer et de tout attribuer au CO2. Alors que je pense qu'il n'y a aucun doute que la plupart des gens qui travaillent vraiment sur l'évolution du climat sont conscients de cette superposition de facteurs. Oui. Et surtout, ce qui est important à voir, c'est le poids de plus en plus grand du surplus de gaz à effet de serre. Je pense qu'une image importante, hein, c'est toujours ces watts par mètre carré de perturbation. Aujourd'hui, on est à 2,5 watts par mètre carré de perturbation d'origine anthropique. Et si on continue sur ce rythme-là, dans 50, 100 ans, on en sera à 4 watts par mètre carré.
Alors,
comparer aux 0,2 watts par mètre carré de variation de l'activité du soleil sur les cycles de 11 ans. Donc on voit bien qu'on rentre dans un monde qui est complètement différent.
Quelques mots sur la montée des eaux, qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui ?
Alors en termes de montée du niveau des mers, on est toujours sur ce rythme de l'ordre d'un peu plus de 3 mm par an sur les derniers 15 ans. Et puis ce qu'on observe encore une fois finalement, c'est qu'on a sur une période parfois de 1, 2, 3 ans un ralentissement. C'était le cas au début des années 2000. Et puis de temps en temps une augmentation, c'est le cas des dernières années. Donc la grosse difficulté finalement, et c'est vraiment un point qui est important, quand on parle de climat, par exemple à l'occasion de sommets internationaux comme celui de Copenhague, on a un peu tendance à regarder la dernière année, l'année d'avant. Mmh. Et puis finalement, nous, ce sur quoi on essaye de communiquer, c'est qu'il faut regarder des tendances. Et donc en termes de niveau des mers, on est toujours sur le même rythme, c'est reparti à la hausse, avec finalement un retournement de situation. Il y a 10 ans, le facteur dominant presque, c'était la dilatation des océans qui se réchauffaient.
Oui.
Aujourd'hui, le facteur dominant, c'est la fonte des petits glaciers de montagne partout. Et surtout, ce qui est nouveau depuis une dizaine d'années, une contribution qui devient extrêmement importante de la fonte des calottes polaires, tant du côté du Groenland que de l'Antarctique de l'Ouest. Il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y avait encore un point d'interrogation et les mesures spatiales en particulier ont permis d'apporter des données extrêmement précises qui montrent sans aucun doute que même en Antarctique de l'Ouest, on a eu une accélération d'écoulement sur ces dernières années et une contribution en termes de niveau des mers qui est tout à fait significative.
Eh bien, écoutez, un grand merci pour ce point d'actualité, Valérie Masson-Delmotte. On va rappeler que Kyoto en 97, l'accord s'est joué dans les dernières 48 heures, donc à Copenhague, ça risque d'être pareil. On ne sait pas s'il y aura traité ou non, mais on va attendre parce que toutes ces données sont aujourd'hui sur la table et plus personne ne peut les ignorer. Moi, je vous renvoie à un ouvrage que vous avez écrit avec votre époux, donc Valérie et Marc Delmotte, dans la collection Mini-Pomme aux éditions du Pommier. C'est pour les enfants. Atmosphère, quel effet de serre, c'est très bien fait. Atmosphère qui est faite de serre, et puis aussi nouveau voyage au centre de la Terre. À bientôt, merci à vous.
Il vaut mieux pomper, même s'il ne se passe rien, que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas. Donc les Shaddock sont les ancêtres de la pompe à chaleur.
CO2, mon amour. Denis Chessou.
Après avoir planté donc ce décor, on va rester dans le même sujet, mais cette fois-ci avec la vision des banques. On va vous expliquer cela. Elisabeth Laville travaille au cabinet Utopie. Son site s'appelle Mes courses pour la planète. Et donc elle décortique nos gestes, nos achats qui orientent nos sociétés vers plus ou moins d'énergie et donc de carbone. Et elle travaille aussi en entreprise. Alors le côté banque verte, c'est pas exactement encore cela. Qu'est-ce que vous observez, Elisabeth Laville ?
Moi, j'ai quand même l'impression qu'on a une carence sur l'action, malgré tout, pas que sur la communication. Ça serait assez simple à résoudre s'il s'agissait que de communication. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend l'impact sur le climat, on constate que les banques, évidemment, gèrent des sommes colossales. En 2004, je crois que toutes les banques françaises géraient à peu près 3 fois le PIB français, donc c'est énorme. Que les banques disent « oui, on fait des choses, regardez, sur le climat, on fait tout le monde fait un bilan carbone, où on calcule les émissions directes liées aux bâtiments que possède la banque, aux déplacements de ses équipes, de son PDG, ses dirigeants en avion, en classe affaires, etc. Les consommations d'énergie, des ordinateurs, les lumières qu'on laisse allumer ou qu'on éteint, qu'on laisse allumer d'ailleurs souvent.
Alors,
dans les...
Tout ça, c'est vrai que c'est très bien, mais je veux dire que ça n'a pas forcément beaucoup de nous émouvoir. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir les lignes de crédit, c'est-à-dire que dans les produits qu'ils proposent...
Et voilà, et c'est là que le bas blesse, évidemment, parce que c'est le point principal, c'est-à-dire que quand les banques font leur bilan carbone aujourd'hui, elles ne parlent que des émissions directes liées à leurs activités, j'allais dire presque administratives, de bureaux, etc. Le problème, c'est que les émissions indirectes de CO2 des banques françaises, via les activités effectivement que vous citez d'investissement, de financement de projets industriels, etc., puisqu'il n'y a pas un projet industriel dans le monde qui ne soit pas financé par une banque, sont quelque chose comme 1000 fois supérieures aux émissions directes des banques. Et pour vous dire, les Amis de la Terre avaient estimé il y a quelques années que les émissions indirectes des banques françaises représentaient plus de 3 fois les émissions totales de la France. Selon que vous décidez d'investir dans les énergies renouvelables ou dans des énergies fossiles, ça n'a pas du tout le même impact. Une action dans une entreprise qui fait des énergies renouvelables, elle va avoir 10 à 30 fois moins d'impact sur le climat qu'une action du secteur pétrolier. Et de surcroît, l'autre problème, c'est qu'il y a une partie des investissements des banques qui sont transparentes pour les clients. C'est-à-dire que l'argent de mon compte courant, du vôtre, etc., il est placé sans qu'on le sache, évidemment, sur différentes actions. Et très souvent, même les gens investissent dans une SICAV, etc., sans savoir exactement ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, dans la plupart des cas, aujourd'hui, c'est des énergies fossiles, etc., plutôt que du financement des énergies renouvelables, de la rénovation thermique des bâtiments, ou, j'en sais rien, le développement du bio, évidemment. Et dans l'automobile, même pour prendre un secteur, le rapport d'impact sur le climat, par exemple, il est de 1 à 2,5 selon le type d'entreprise dans laquelle vous investissez. Si c'est une entreprise qui vend plutôt des véhicules électriques hybrides ou des petites voitures urbaines, ou une entreprise qui vend plutôt des gros 4x4, des voitures rapides, sportives, etc., ça fait évidemment une différence colossale.
Merci Elisabeth Laville avec ce site Mes courses pour la planète. On poursuit ce sujet parce que dans l'activité de banque de financement et d'investissement, figurent de grands projets internationaux qui sont souvent controversés. Yann Nouvel dans l'ONG Les Amis de la Terre justement, donc, est chargé de campagne responsabilité des acteurs financiers. Et donc ils ont sorti un guide environnement, comment choisir ma banque, qui est un outil tout à fait concret pour nous aider dans le choix de notre banque et s'assurer que notre argent va contribue davantage à protéger la planète qu'à la détruire. Alors parlez-nous de ce classement, Yann Nouvel.
D'abord, et c'est ce qu'on veut faire en premier, c'est identifier les alternatives qui ne sont pas beaucoup connues. Donc on va avoir l'ANEF et le Crédit Coopératif qui sont peu connus et qu'on considère qu'ils ont des impacts positifs de par la nature de leurs activités. Et également, ce qui nous a beaucoup intéressé aussi, c'était la source même du départ de la campagne sur les acteurs financiers, c'était évidemment les gros projets financés par les grandes banques internationales. Et donc voilà, on va retrouver toujours les mêmes, c'est Crédit Agricole, LCL, Société Générale et BNP Paribas, qui sont aux quatre coins du monde et qui financent des projets très controversés avec des impacts énormes sociaux et environnementaux.
Alors, quelques exemples ?
Alors, des exemples très concrets. On va avoir, par exemple, dans le domaine environnemental, Sakhalin 2, qui est un projet pétrolier et gazier absolument géant en Russie et qui met en danger les dernières populations de baleines grises occidentales. On va avoir aussi des grands barrages. On peut avoir Ilisu en Turquie, qui aurait déplacé potentiellement plus de 78 000 Kurdes et dans lequel avait été la Société Générale. Ils se sont retirés à cause du non-respect des conditions environnementales et sociales de la Turquie. Mais on peut avoir également Théoninbun, la prolongation du barrage de Théoninbun au Laos, où là, voilà, on fait des missions terrain, on va vérifier sur place et on se rend bien compte que l'impact sur les populations en aval du barrage, ben voilà, il n'est pas correctement pris en compte. Et pour terminer juste le classement, on va retrouver ensuite les banques intermédiaires, donc voilà, qui sont peut-être moins internationales.
C'est-à-dire que vous dites que c'est des risques faibles à modérer.
Voilà, risques faibles à modérer, c'est-à-dire que par rapport aux trois grosses, c'est moins. Et donc là, on va retrouver dans cette catégorie la Banque Postale, Banque Populaire, Caisse d'Épargne et Crédit Mutuel CIC, que voilà, comparé au nombre de projets controversés des trois grandes banques françaises.
On n'a pas parlé de l'armement, enfin là, on les retrouve aussi un producteur de
Absolument.
Bombes à sous-munitions.
Tout à fait, producteur de bombes à sous-munitions. Il y a des grandes campagnes qui ont été menées là-dessus au niveau international par nos collègues belges, mais aussi ici en France avec Amnesty International et Handicap International. Il y a des évolutions, mais enfin, on ne peut clairement pas dire que la situation est parfaite aujourd'hui. Ça bouge, mais on est encore loin. C'était bombes à sous-munitions et mines antipersonnelles.
Alors, est-ce que l'on a sur les produits financiers aujourd'hui, on va dire, une espèce d'étiquetage qui permettrait de nous dire, ah bah attendez, là je dépose mon argent, mais j'aurai donc un impact faible ou modéré ou bien pas du tout sur l'environnement ?
Alors, il n'y a pas grand-chose qui existe pour le moment à l'heure actuelle. Il y a deux choses uniquement si on considère voilà, les produits qu'il y a dans les banques. La première, c'est l'étiquetage des caisses d'épargne auxquelles on a participé. En gros, ça donne trois informations aux clients, tous les clients des caisses d'épargne, sur la majorité des produits distribués. Information financière, est-ce que c'est risqué ou pas ? Information ISR, donc est-ce que c'est plus ou moins responsable, l'utilisation qui est faite
Alors,
des fonds. ISR, c'est investissement socialement responsable. Et aussi, ce qui nous intéressait beaucoup, nous, c'était concernant le climat. Quel est l'impact climatique de l'argent que je vais placer dans ce produit-là ? Et donc là, il y a un premier aspect pédagogique qui est la raison même d'être de votre émission, qui est d'avoir ce déclic, de se dire, tiens, mon argent, il ne dort pas à la banque. Ma banque, elle l'utilise pour faire d'autres choses avec. Et juste d'avoir ça, déjà, rien que ça, c'est intéressant.
Il y a de nouvelles. J'allais trouver mon banquier. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je suis un petit peu ligoté avec mes 25 prélèvements de carte bleue, donc je n'ai pas forcément envie de bouger. Comment je peux agir ?
Ah ben, il faut l'interpeller très clairement. Si effectivement pour X raisons, mais c'est notre priorité quand même, vous ne décidez pas de changer de banque, mais vous pouvez quand même, si vous êtes révolté par les différents projets controversés, financés. Sinon, effectivement, ne serait-ce le simple fait de l'interpeller, l'information, quoi qu'il arrive, on se dit toujours « Ah, moi, je suis une personne tout seul dans mon coin, je n'ai pas d'impact », c'est faux. La masse a clairement de l'impact et l'information, quoi que ce soit que vous lui demandiez, que vous l'interpelliez, ça va remonter au directeur d'agence, puis ensuite au niveau du groupe. Donc voilà, il faut l'interpeller sur ces différents différents projets-là, à regarder ce que vous financez, ou encore également demander justement des informations sur les produits ISR. Et vraiment essayer de gratter, pas juste de demander qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le produit soi-disant éthique que vous me proposez là. Est-ce que voilà, est-ce qu'il a le label, est-ce qu'il a tel ou tel label, le Finance Solidaire, Finansol, ou encore Novéthique. Qu'est-ce qu'il y a dedans concrètement? Est-ce qu'il y a du total? Une question, voilà, est-ce qu'il y a du total dedans? Est-ce qu'il est capable de répondre ou pas? Ça vous donne une bonne petite indication de cela, mais surtout interpeller son banquier et dire que vous vous préoccupez des conséquences de la gestion de votre argent.
Il y a une nouvelle, au-delà du site lesamisdelaterre.org, il y a un autre site très intéressant.
Tout à fait, il s'appelle secretbancaire.fr, donc secretbancaire au pluriel tout attaché.fr, sur lequel vous avez une carte du monde et vous cliquez sur votre banque et vous voyez apparaître sur la carte du monde les projets controversés dans lesquels elle est impliquée, ce dont on parlait tout à l'heure, barrages géants, pétrole, gaz, droits humains, enfin toutes ces violations-là. C'est très impressionnant, très spectaculaire et évidemment vous pouvez agir ensuite en écrivant à votre banquier et en faisant les différentes actions dont on a parlé.
Voilà, donc bonne chance aussi avec votre banquier. Et ce site est tout à fait intéressant, enfin les deux, avec celui des Amis de la Terre. Et donc celui-là, secretbancaire.fr, vous l'avez sur le site de CO2, mon amour. Dans quelques instants, on va changer. Oui, ce sera de la nature avec l'Arpagophytum pour nous soigner, avec Jacques Florentin, une plante qui fait du bien. Elle nous fait du vraiment, elle aussi, beaucoup de bien. C'est Luz Casal, une histoire d'amour.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir.
Plantes médicinales, des plantes qui nous soignent, deux titres signés Jacques Florentin, notre pharmacien aux éditions Ouest-France. Bonjour Jacques Florentin.
Bonjour Denis Chessou.
Et nous avons regardé à la lettre H comme Arpagophytum. Celle-là est très intéressante parce que inflammation et douleur, eh bien, on a une réponse avec l'Arpagophytum. Ça vient d'où? Ça ressemble à quoi?
Alors c'est une plante qui vient d'Afrique du Sud, qui pousse dans le désert, qui rampe sur des sols très, très dégarnis. Qui forme de magnifiques fleurs violettes. Mais ce qui est particulier, c'est son fruit. Ça va donner un fruit assez gros qui peut faire une quinzaine de centimètres, qui est muni de grappins ou de crochets. Ah ouais. Et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi la griffe du diable, parce que lorsqu'elle s'agrippe à la fourrure des animaux, l'animal a beaucoup de difficultés à s'en débarrasser.
Mais c'est comme ça aussi qu'elle, peut-être qu'elle est disséminée.
Exactement, hein. C'est un moyen pour cette plante d'être disséminée sur de grandes étendues.
Alors je disais anti-inflammatoire, anti-antalgique, inflammation, douleur, donc ça sert à quoi principalement ?
Alors c'est surtout pour toutes les douleurs inflammatoires chroniques, hein, des gens qui ont des douleurs au niveau des articulations. Et en fait, cette plante...
Arthrose, articulation, qu'on va dire.
Voilà. Ouais. En fait, cette plante avait été découverte au début du XXe siècle en observant un tradit praticien qui soignait des blessés de guerre avec cette plante-là. Et il n'avait jamais voulu révéler l'origine de sa plante. Et puis, l'histoire raconte que c'est le chien d'un chercheur qui a fini par retrouver l'endroit où le guérisseur avait caché les parties de plantes pour en extraire les racines.
D'accord.
Et cette plante a fait l'objet de nombreuses études, dont pas mal ont été faites à l'Université de Metz. Et on a démontré des propriétés antidouleurs, des propriétés anti-inflammatoires extrêmement intéressantes. Et cette plante renferme des arpagosides. Et c'est de nouveau une molécule assez typique à propriété anti-inflammatoire. Et on a pensé que c'était cette molécule qui était responsable de l'activité. Et quand on a testé la molécule seule chez l'animal, on a perdu quasiment toute efficacité. Et pratiquement dans 80% des cas, lorsqu'on a affaire à des plantes non toxiques, l'extrait est beaucoup plus actif que la molécule isolée. Et ça renforce énormément le rôle de la phytothérapie dans la thérapeutique.
Est-ce que cette plante soulage donc les cartilages, mais est-ce qu'elle peut aider à refabriquer du cartilage ou bien simplement ça soulage le...
Non, pas du tout. Voilà. Elle ne va pas aider à reconstituer le cartilage. Là, c'est plutôt d'autres plantes comme des associations de soja et d'avocat qui peuvent reconstituer le cartilage. Mm-hmm. Celle-ci va avoir une action de soulagement strict, c'est-à-dire anti-inflammatoire, anti-douleur. Et... on a dans nos régions une plante qui a pratiquement la même composition chimique qu'on utilise très peu et qu'on devrait utiliser beaucoup plus. C'est la scrofulaire. Mmh. Elle renferme aussi des arpagosides. On l'a à portée de main et c'est une plante que je conseille maintenant de plus en plus parce qu'elle a des propriétés voisines qui ont été testées. Elle est aussi anti-inflammatoire et aussi antidouleur.
On peut avoir des combinaisons arpagophytum, scrofulaire et puis aussi on peut rajouter la prêle, je crois, dans ce domaine.
Oui, alors on ajoute la prêle, on ajoute surtout la feuille de cassis. Disons que si on a c'est soit la scrofulaire et la feuille de cassis et la prêle, soit l'arpagophytum. L'arpagophytum pose un problème parce que cette plante est tellement utilisée en pharmacie
oui,
maintenant...
Il risque de plus y en avoir.
Voilà, que la plante est en train de disparaître. Il y a maintenant, au niveau du ministère de l'Environnement, toute une stratégie de prélèvement qui a été faite pour éviter justement qu'elle disparaisse. Et puis, il y a une deuxième espèce qui est utilisée. Ça, c'est l'arpagophytum d'Afrique du Sud. Et nous, on avait travaillé sur une autre espèce qui est celle d'Angola. Et qui n'était pas la pharmacopée européenne. Et un petit peu grâce à nos travaux avec l'Université de Marseille et de Metz, on a validé les mêmes propriétés anti-inflammatoires antalgiques et maintenant elle est officielle aussi. Donc il y a deux espèces qui permettent de fournir ce médicament.
Alors on a un petit peu insisté, mais ça représente du monde. Hein. Les gens qui ont des problèmes effectivement, d'articulation, d'arthrose, ça fait quand même pas mal de personnes. L'arpagophytum, donc c'était notre plante du jour. Merci beaucoup Jacques Florentin, puis à très bientôt. Au revoir.
À très bientôt, au revoir Denis.
Et avec son livre, donc, « Ces plantes qui nous soignent », Jacques Florentin, aux éditions Ouest France. Alors, ces produits, vous ne les trouvez pas qu'en pharmacie? Non, il y a plein de boutiques, naturopathie, patata, enfin, vous en trouvez à peu près partout. Merci à Loïc Frapsoz, Pierre-Yves Derolin à la technique aujourd'hui, à Marion Lelay, à Jean-Christophe Pinaza, mon camarade d'écriture, et à Cyril Métraux qui réalisait aujourd'hui cette émission, sans oublier Xavier Pestugia qui a réalisé le reportage sur le Lot. Anne Gouzon nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Vous avez donc aussi ce site formidable, l'actualité de l'environnement en temps réel. Possibilité pour vous de réécouter cette émission pendant 4 semaines et de l'enregistrer pendant une semaine.